Il y a le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui souhaite à réduire ses dépenses au cours de la prochaine année et on a demandé au ministère, aux différents ministères de la province, du gouvernement, d'essayer de réduire ça entre 10 et 15 % et ça implique que du côté du ministère en fait de l'éducation post-secondaire, on parle de réduire les dépenses en faisant des fusions de collèges et d'universités. Puis, ben, on va en parler avec Jean-Claude Damo, qui est justement lui-même le ministre de l'Éducation post-secondaire. Ça va bien, M. Damo?
Ça va très bien, toi?
Oui, ça va bien. Est-ce que votre téléphone est occupé aujourd'hui suite à cette annonce-là?
Ben, écoutez, c'est que dans un premier temps, il faut bien comprendre que qu'est-ce qui a été présenté au collège et université, c'est des exemples. Donc, il n'y a rien de coulé dans le béton, il n'y a rien de finalisé. C'est afin d'avoir des discussions avec nos collèges puis nos universités à travers la province. Et puis aussi de leur permettre de pouvoir arriver avec des suggestions et de voir comment qu'on peut faire les choses différemment. Il faut regarder que peut-être au cours des dernières décennies, dans certains cas, il y a des choses qui ont été faites d'une telle façon et puis est-ce qu'on peut le faire ou faire une livraison de services différents? Est-ce qu'on rencontre encore aujourd'hui les besoins du marché du travail? Parce que comme je l'ai souvent mentionné au président et recteur des universités et puis aussi de nos PDG des collèges, francophones et anglophones, j'ai dit à un moment donné, vous devez prendre une décision à savoir est-ce que une telle formation est encore rencontre encore des besoins du marché du travail ou ce serait peut-être le temps de penser à faire autre chose. Donc, vous comprendrez que depuis qu'on a commencé le processus de discussion avec nos collèges et universités, certainement, de mettre des exemples sur la table a fait sourciller certains. Puis je peux comprendre, l'objectif n'était pas de créer un climat négatif, c'était de pouvoir avoir une discussion franche. Et puis, je pense que c'est exactement qu'est-ce que nous avons actuellement.
Si on pense à Edmundston, ici, il y a un exemple qui a été cité, c'est-à-dire que l'UMCE pourrait être jumelé d'une certaine manière là, avec la fameuse programmation de foresterie. Là. On parle de mixer ça avec l'Université du Nouveau-Brunswick. J'ai peut-être pas les bons termes, là, mais de fusionner, sinon, qui est le campus de Fredericton pour l'Université de Nouveau-Brunswick et le Collège de technologie forestière des maritimes. Qu'est-ce que ça impliquerait tout ça concrètement pour la région?
Ben, regardez, il faut faire attention pour ne pas mêler les deux parce qu'il existe, vous savez, l'Université du Nouveau-Brunswick, UND, on a l'Université de Moncton avec ses différents campus, ses trois campus, mais on a aussi qu'est-ce qu'on appelle le Collège de maritime de foresterie qui est basé dans un premier temps à Fredericton et dans un deuxième temps pour les francophones à Bathurst. À un moment donné, ça a été dans les discussions puis ça continue à être dans les discussions. Vous savez, on a quand même une faculté de foresterie à l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, à savoir est-ce qu'il pourrait y avoir un jumelage potentiel qui pourrait permettre au Collège des Maritimes de s'intégrer à l'intérieur du campus d'Edmundston, à titre d'exemple. Mais encore là, on est très loin de la finalité à ce niveau-là, mais c'est à titre de vérification. Est-ce que le campus d'Edmundston pourrait offrir davantage? Est-ce que le Collège de forestier des maritimes pourrait être une option intéressante pour l'Université de Moncton et notre campus. Donc, vous voyez, c'est des choses qu'on regarde. Et puis, de l'autre côté, le volet anglophone qui est à Fredericton, on posait la question, vu que l'Université du Nouveau-Brunswick, UND à Fredericton, a aussi un volet foresterie, est-ce qu'il pourrait y avoir une combinaison entre les deux à l'intérieur d'une même institution? Donc, vous comprendrez que c'est pas nécessairement d'éliminer des éléments, mais c'est de voir est-ce qu'on peut être plus efficace, est-ce qu'on peut faire des choses et renforcer le noyau de nos institutions. Et puis ça, je pense que c'est quand même sain comme discussion, parce que vous savez, la province du Nouveau-Brunswick, actuellement, contribue à l'ensemble de ses collèges et universités aux alentours de 336 millions de dollars annuellement. Donc, 336 millions de dollars, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'on peut faire des choses continuellement de la même façon ou est-ce qu'on peut faire des choses différemment? Est-ce qu'il y a des économies d'échelle qui peuvent être faites, qui vont faire en sorte qu'on pourrait donner une chance au niveau des finances de la province? Puis encore là, c'est de se poser la question, est-ce qu'il faut toujours faire des choses de la même façon pour le reste de notre vie, ou bien qu'on peut regarder à faire des options différemment, mais qui peut être aussi responsable et qui va pouvoir rencontrer les besoins du marché du travail. Et puis ça, cet élément-là, je pense qu'il est essentiel.
Vous parlez de couper là, entre 35 et 50 millions de dollars avec cette, ces fusions-là. Là. Mais comment on fait pour réussir à récupérer de l'argent en fusionnant des collèges et des universités ensemble? Comment on le chiffre, là, ce résultat-là?
Bien, c'est un travail qui, comme je l'ai mentionné, il n'y a encore rien de coulé dans le béton. Et puis, c'est une analyse, une discussion qu'on a depuis les dernières semaines avec nos collèges et universités. Encore récemment, plus tard cette semaine, je devrais avoir une rencontre avec les directions des collèges et universités pour continuer la discussion, mais aussi à même notre ministère, le ministère de l'Éducation postsecondaire et de la formation et du travail. On regarde aussi quelles sont les options, tout à l'intérieur du ministère. Le ministère n'est pas seulement lié au niveau de nos collèges et universités, mais on a aussi des options à l'intérieur du ministère. Donc, il faut regarder de quelle façon qu'on peut générer peut-être davantage de revenus et de l'autre côté, de voir est-ce que l'ensemble des programmes que nous offrons sont toujours adéquats. Donc, on fait cet exercice-là. Donc, vous savez, à la base, on nous avait demandé de regarder à des économies aux alentours de 10 % pour l'ensemble des ministères. C'est certain que ça veut dire des enjeux importants lorsqu'on parle de diminution des programmes de 10 %. Mais par contre, c'est que je pense qu'en bout de ligne, c'est qu'on est en train de faire un exercice qui aurait peut-être dû être fait plusieurs années passées. Et aujourd'hui, je crois que la façon qu'on le fait, de prendre des parties prenantes, nos stakeholders, et puis de s'asseoir avec eux, de discuter, est vraiment une approche proactive. On n'est pas là en train de dire qu'on va prendre la décision et le jour avant le budget, on va annoncer à nos partenaires qu'est-ce qui va arriver. On travaille avec eux à trouver des solutions. Et puis, je suis convaincu qu'on pourra arriver avec des résultats qui seront extrêmement positifs en bout de ligne pour la population. Et puis, qu'on aura été en mesure de mitiger le plus possible les impacts dans l'ensemble au niveau des institutions.
Si jamais on s'enligne vers ça, ces fusions-là, combien de temps ça pourrait prendre pour les, premièrement, débuter là, la mise en œuvre de ces fusions-là, et combien de temps ça pourrait prendre en tout pour en arriver au résultat escompté?
Bien, écoutez, encore là, c'est toutes les questions. On a mis sur la table des options. Il y a des options qui peuvent ne pas être du tout de la question de fusion. On est à évaluer l'ensemble des options. Mais c'est certain aussi que lorsqu'on prend le temps d'évaluer les options, on regarde quel sera l'impact. Et puis moi, c'est important qu'au niveau du ministère, puis aussi au niveau de nos partenaires, qu'on regarde s'il y a un impact positif, s'il y a un impact négatif. Et puis, est-ce que, en fait, compte, lorsqu'on peut peut-être avoir l'impression qu'on est en train de faire un changement, puis que ça peut être un changement positif, mais comme on dit, on peut peut-être changer 4,25 cents pour une pièce. À un moment donné, on se dit, ben, c'est-tu vraiment la bonne direction? On est-tu juste en train de changer pour changer ou qu'on est en train vraiment de bien considérer les options? Donc, au cours des prochaines semaines, on va continuer à avoir des discussions avec nos partenaires et puis aussi à l'intérieur du ministère de voir est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites différemment? Est-ce qu'il y a des opportunités qui se présentent devant nous? Est-ce que, vous savez, lorsque j'ai rencontré au cours de la dernière année les présidents et recteurs et PDG de nos organismes, de nos institutions d'enseignement postsecondaire, je leur ai dit, vous devez regarder les programmes que vous offrez. Et si certains de ces programmes-là ne sont plus à la hauteur ou ne sont plus à qu'est-ce que le marché du travail recherche, vous aurez à prendre une décision. Et puis, je comprends que souvent, les décisions de canceller un programme ou d'annuler un programme est pas toujours facile, mais des fois, il faut regarder. Est-ce que tel ou tel programme sont encore efficaces? Est-ce que tel ou tel programme sont encore un besoin sur le marché du travail? Et puis, est-ce que ça mériterait de regarder à d'autres options? Est-ce qu'on pourrait faire de nouveaux programmes? Est-ce que le marché du travail exige un programme différent ou des programmes différents pour pouvoir rencontrer les besoins de nos entreprises et nos organismes sur le marché du travail. Donc, vous voyez que c'est une réflexion qui est importante, mais c'est une réflexion aussi qui est essentielle si on veut s'assurer de faire les choses correctement.
En terminant, on dit que l'idée là, d'avoir plus de 20 campus est aussi remise en question. Qu'est-ce qui se passerait s'il y a des campus, exemple, on prend un exemple, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver dans la région, mais si on a à abandonner le campus d'Edmundston, les gens vont se déplacer où? Comment qu'on justifie ça, le fait de fermer des campus, parce que c'est de la distance là, à partir de là qui change la donne pour bien des étudiants, des professeurs, du personnel scolaire?
Vous savez, je ne pense pas qu'on parle d'arriver et de dire que on est là pour nécessairement fermer des campus. Il faut regarder puis se dire, est-ce que on offre le service de façon optimale? Est-ce que dans chacun de nos campus, est-ce qu'on pourrait offrir des choses additionnelles? Je le donnais l'exemple tantôt. Est-ce que le Collège des Maritimes de Foresterie pourrait avoir une certaine combinaison avec la Faculté de Foresterie de l'Université de Moncton, Campus d'Edmundston? Vous voyez, on parle d'opportunités quand même. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va arriver, parce que lorsqu'on se dit que ça peut peut-être avoir une certaine cohérence puis une certaine logique, peut-être qu'en bout de ligne, il y a un coût additionnel à faire ça. Donc, c'est certain que s'il y a des coûts additionnels, c'est pas l'objectif, mais il peut y avoir des opportunités. Donc, c'est pour ça que je le mentionne puis je le réitère. À l'intérieur des décisions et des discussions qu'on a actuellement, on regarde est-ce qu'on fait les choses adéquatement, est-ce qu'on maximise les campus qu'on a actuellement, est-ce que l'ensemble des campus de nos collèges, que ce soit le CCNB, que ce soit le NBCC, sont complètement utilisés à leur pleine capacité, ou bien qu'on doit regarder à d'autres options. Est-ce qu'on peut faire une portion de d'autres activités avec certains campus tout en conservant une portion au niveau de la formation? Donc, c'est l'ensemble de ce portrait-là qu'il faut regarder. Et puis, je le répète, il n'y a aucune décision qui est encore prise. Et puis, on va prendre le temps de continuer à discuter. Je continue à le faire avec nos partenaires dans les collèges et universités de la province. Et puis, je vais continuer à le faire au cours des prochaines semaines pour être certain qu'on puisse avoir un système d'éducation postsecondaire qui soit fort et un système d'éducation postsecondaire qui rencontre les besoins de nos entreprises et de nos organismes, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau de l'éducation, pour s'assurer qu'on ait vraiment des étudiants qui sont formés pour les besoins qu'on a actuellement sur le marché du travail.
Monsieur Damour, merci beaucoup. Vous venez d'entendre Jean-Claude Damour, qui est le ministre de l'Éducation postsecondaire, un titre parmi plusieurs autres. Moi, c'est Michael Robitaille pour IGL Consortium. Passez une belle fin de journée.
Merci beaucoup, Michael, et à bientôt.